Une émission soutenue financièrement par Jean Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Salut, salut, salut à tous et bienvenue dans le numéro 88 de eTeachers. Et on est de retour avec ce soir, pardon, excusez-moi, j'avais de l'écho parce que c'est le direct qui se lance en même temps, n'importe quoi. On est de retour ce soir avec Seb et Jeff. Et Jeff qui a de nombreux soucis techniques ce soir, mais ma foi, il est bien avec nous. Salut Seb, salut Jeff.
Ouais, bonsoir à tous. Je sais pas si le son va être top ce soir. Il était pas très top déjà, je m'en excuse. Il y a 15 jours, ouais, j'ai des problèmes de connexion. Il va falloir que je règle ce problème rapidement parce que ça commence un petit peu à me gaver, si vous voulez savoir.
Et on a effectivement Yannick qui nous dit sur le chat, il nous demande s'il n'y a pas une carte son sur ton nouveau PC ou si tu fais exprès d'avoir un son pourri pour qu'on te finance un nouveau micro sur Tipeee. Eh ben, merci beaucoup Yannick, c'est pas complètement faux, je crois qu'il y a de l'esbrouve dans l'air.
Voilà, ou financer une... plein.
Bon, ça y est. Allez, vas-y avec ton son pourri, parle un peu quand même.
Un petit sommaire, c'est ça, comme d'habitude.
Un petit sommaire, vas-y.
Allez, un petit retour sur l'émission précédente d'abord. Oula, je perds mes habitudes. On a eu un petit retour d'Olivier Elary, ou Elary, je sais pas, il m'excusera en tout cas sur la prononciation, qui nous dit sur notre Twitter un merci pour notre émission et notre bonne humeur. En tout cas, merci à lui pour ce petit retour. On y va, actu, on va commencer par les actus ce soir avec, on va parler art, a priori, on va parler réalité augmentée. Et on va parler un petit peu d'informatique pour tous à l'école. On va aller sur notre rubrique outils ce soir avec un petit peu de web radio, un petit peu de, décidément, de réalité augmentée aussi. Notre petite rubrique trucs et astuces. Et on aura notre rubrique innovation et expérimentation. On parlera tablette en langue vivante. On parlera un petit peu de ce qui se passe à l'étranger au point de vue éducation. Et on finira bien sûr par nos rubriques habituelles, ce que l'on fait en ce moment, et pour parler d'autres choses.
Et avant de commencer, dans les retours, on a également eu un retour de mon ami Johan Panier, prof de langue aussi, qui nous écoute beaucoup et qui nous dit vraiment que c'est un plaisir de nous écouter et qu'en plus de la veille numérique, il découvre à chaque fois dans le pour parler d'autres choses des trucs intéressants à lire, écouter ou voir. Pour lui-même, voilà.
Merci, Malui. On est parti ?
Allons-y.
Je ne sais pas qui a mis cette première, en tout cas cette première...
C'est moi, parce que je ne savais pas trop où le mettre.
Attaque, dans l'ordre. Hein.
Pas vraiment une actualité, mais voilà, le musée The Art Institute of Chicago... qui est donc un musée ultra connu, réputé, bien évidemment, permet de visualiser gratuitement 52 000 œuvres issues du domaine public. Alors bon, vous allez me dire que ce n'est pas nouveau que les musées permettent de voir des œuvres sans se déplacer, mais ce qu'il y a, c'est que là, c'est vraiment de la haute définition et c'est assez magique. Alors voilà, moi, j'utilise beaucoup le numérique et le net, notamment avec mes élèves, pour l'art, pour la découverte de l'art. Et du cochon. Et voilà, ça s'est fait. Et, pardon.
Attention, notre indicateur de jeu de mots pourri vient de réagir.
Je suis désolé, ouais. Non, sans déconner, c'est vraiment super bien. La numérisation est parfaite. Vraiment, on peut projeter ça, travailler en classe, faire des captures en classe pour après travailler sur les lignes de force des tableaux, enfin les analyser avec les élèves. Enfin, moi, je m'en sers. C'est toujours des supports en langue vivante pour faire parler les élèves, assez magique. Donc, avoir cette... Vous allez me dire, souvent les gens me disent ouais, mais tu trouves tout sur Google Images. Oui, effectivement, on trouve beaucoup de choses sur Google Images, mais c'est jamais de cette qualité-là. Et puis j'aime bien quand même la démarche de me dire qu'on va quand même dans un musée, même virtuel avec les élèves. Ça permet aussi de faire connaître ces musées à des élèves. C'est des musées, il y a peu de chances que mes élèves, en tout cas auxquels je pense, y aillent en grande quantité. Peut-être certains d'entre eux, et je leur le souhaite. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est disponible sous des licences Creative Commons. Et c'est assez hallucinant, quoi. Donc, tout ce qu'on peut retrouver de tous les styles de peinture, de l'art moderne, aux impressionnistes, en passant par des cubistes, c'est assez magnifique. Voilà, donc ça serait con de ne pas s'en priver. 52 000 œuvres en accès libre. Voilà.
C'est fait par qui ça, en fait? Tu n'as pas dit?
C'est directement le musée qui fait ça, en fait. Hein. C'est l'Institut d'Art de Chicago. Voilà.
D'accord, ok.
Qui numérise et qui met à disposition toutes ces ressources.
Ok. Bon, vu ma connexion, j'ai pas le tenter ce soir.
Non.
Non, tout de suite là, non, ça, c'est pas une bonne idée.
Effectivement. Voilà. Donc, je sais pas si c'était vraiment de l'actualité, mais en tout cas, c'est de l'actualité puisque ça fait pas très longtemps qu'ils numérisent tout ça, mais c'est vraiment maintenant disponible. Voilà.
Et merci, je vais prendre la main pour la suite.
Et on enchaîne, Seb ?
Oui, tout à fait. C'est sur un podcast, vous allez pouvoir l'écouter en podcast. À la base, c'est l'émission de radio Être et Savoir, anciennement appelée Rue des Écoles, qui passe sur France Culture et qui avait pour thème l'informatique pour tous à l'école. Alors forcément avec un titre pareil, ça date de cette semaine, enfin de la semaine dernière je crois, avec un titre pareil je me suis rué dessus. Nous avions donc comme invité de Louise Touret, vous aviez Monsieur Geoffrey, directeur général des ressources humaines du ministère, Gilles Doeck, un informaticien et chercheur, Gérard Berry, informaticien, professeur Collège de France, et Bruno de Vauchel, professeur associé à l'Université de Poitiers. Donc, un programme qui aura... Enfin bon, je vous laisserai écouter l'émission pour ceux que ça intéresse. Ça a pris pour base, bien sûr, le nouveau CAPES qui va être mis en place. Je pensais que ça serait l'unique axe. Alors, si c'est votre pensée aussi, vous allez risquer d'être un peu déçu comme moi. Non, ça aborde ça en première partie, après un bref historique de ce que c'est que l'informatique à l'école. Je pense qu'il y aura de quoi écrire des bouquins, hein. Même faire des musées, rien qu'avec nos placards. Et ça s'aventure vers différents chemins sur comment est-ce qu'on peut faire, quelle est la pédagogie pour l'informatique, quelle est la question du... La question, je dirais, de la parité, enfin pas de la parité, mais de la représentation féminine dans le milieu informatique, etc. Alors, ça a brassé un petit peu large, ça a dit des choses sur le CAPES, mais pas beaucoup, pas assez du moins à mon goût. J'aurais bien aimé qu'on parle d'autres choses, mais comme on en a évoqué dans notre émission précédente. Et voilà, c'est pas... Enfin bon, faut pas s'attendre à uniquement l'axe CAPES, ça brasse plus large, donc ça peut être intéressant. Voilà, pas grand chose de plus à dire, et je continue.
Vas-y, continue.
J'allais rebondir, moi.
Vas-y, rebondis.
Ouais, je l'ai écouté aussi, moi, donc cette émission. Ils ont aussi abordé forcément le lycée, hein, puisqu'avec la réforme des lycées, on en avait parlé, hein, de l'enseignement en seconde et de l'enseignement de spécialité en première aussi. Donc voilà. Donc voilà, mais sur le CAPES, en fait, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas grand-chose. Hein. Le ministre a lancé un CAPES, mais on n'en sait pas plus que ça, quoi. C'est surtout ça que j'ai senti dans cette émission. Tu vois,
moi, si tu veux, j'aurais aimé qu'ils le disent carrément. Qu'ils disent, en fait, on avance dans le flou et qu'ils mettent en parallèle...
Parce que même le nom n'était pas définitif, tu vois.
Moi, ce que j'ai appris, c'est que les ESPE allaient encore changer de nom. Ça, par contre...
Oui, on en avait parlé pendant...
Je n'étais pas très au fait de cela. Non, moi, il y a des tas de petites choses sur lesquelles j'ai été déçu. J'aurais bien aimé qu'ils soient francs, qu'ils répondent à la question qu'on se posait dans le e-teachers 87, c'est vu ce que l'on demande, vu le poste que c'est, comment ils vont recruter des gens, quoi, à un moment, parce que c'est des compétences de folie, l'enjeu de la formation, enfin bon, des tas de problèmes structurels qui se posent sur ce CAPES, mais bon, voilà.
Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils ont abordé le sujet parité filles-garçons, en espérant que voilà, ça allait amener un peu plus de filles, parce qu'il y a de l'enseignement derrière.
Oui, non, mais ça, pourquoi pas, mais bon, c'est pas. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ce qui était au centre du truc? Je pense pas.
Non, j'ai l'impression que ce CAPES, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà. Ouais. J'ai l'impression, voilà. Ouais.
Voilà, sur c'est la. Oui, excuse-moi, Guillaume.
Non, non, je disais juste que c'était effectivement un peu flou encore, quoi.
Un peu beaucoup. Sur quelque chose d'un peu moins flou, enfin, on va continuer un peu dans le flou. On va parler un peu d'HP Reveal. Alors, ouais. HP Reveal, je rappelle, ce service de réalité augmentée qui, à la vue d'un marqueur, qui peut être une image, un objet, fait apparaître en surcouche, alors ça peut être tout, ça peut être une autre image, ça peut être une vidéo, une animation 3D, une animation en 3D, ça peut être une image sur laquelle on appuie et qui déclenche un lien. Ça pouvait être pas mal de choses, et là, un peu comme Padlet l'an passé, on a l'impression que ça on va vers la fin du modèle libre, parce que jusqu'à présent c'était gratuit. Pas du modèle libre, pardon, du modèle gratuit, parce que jusqu'à maintenant ça l'était, gratuit, et apparemment ils vont changer de dispositif. Pardon, Jeff ?
T'as tapé sur les doigts là.
Ah oui, non, je ne veux pas confondre le libre et le gratuit. Ouais. Donc là, on a tous reçu, les utilisateurs d'HP Reveal, un mail nous disant qu'ils allaient changer de formule, changer ci, changer là. Donc quand on commence à changer, à fermer des choses en disant non, mais vous pourrez continuer à utiliser ça, mais de cette façon. Là, si j'ai bien saisi, ils vont fermer le service. PC, on peut utiliser sur PC, mais on pourra continuer à utiliser le service sur tablette pendant un moment. Ouais, ça je pense que c'est juste pour nous dire après on fermera complètement et ce sera fini. Donc c'est un petit peu dommage. Moi je m'en servais sur ma petite carte de classe. Donc il va falloir que je trouve un autre système pour faire la même chose.
On a perdu Jeff là, non ?
Ah, on a perdu Jeff ?
Je sais pas. Il m'a l'air de couper, de remettre son micro. Ça a l'air d'être bon.
Oui, ça a l'air d'être compliqué ce soir.
Il est au chiotte maintenant. Ça y est, ça arrive.
Vous m'entendez là ?
Oui, ouais, on t'entend.
T'es malade, non ?
Non, j'essaie de passer en 4G en fait. Tout ça. Parce que là, c'est la misère. Ok, très bien, je périvole. J'ai rien entendu.
Bon, très bien. Écoute, Jeff, ce soir, c'est compliqué. Laisse tomber, ma foi. Allez, eh ben, on va enchaîner.
On passe à la suite, justement. C'était.
On parle outil.
On parle
outil. C'est moi qui continue. Non, on peut tenter là, tant que la connexion est correcte.
Eh ben, vas-y.
Allez. Je vais vous parler d'une petite application qui est faite par Maison de la Radio, par Radio France, qui est assez intéressante au point de vue tout ce qui est éducation aux médias, qui est vraiment une application qui s'appelle Atelier France Info Junior, qui va permettre journaux radiophoniques. Justement, donc cette application s'installe sur Android et chez Apple sans problème. Alors il y a une petite bizarrerie, c'est que vous ne trouverez pas l'application sur le Play Store de Google. Il faudra la télécharger directement à partir du site maisondelaradio.fr. Je ne sais pas pourquoi. Cette application va permettre déjà de comprendre comment fonctionne la création d'un journal, en tout cas radiophonique. L'habillage sonore par exemple, la diction, voilà, comment est coupé les brèves, sont coupées les chroniques, les interviews, etc. Vraiment très intéressant en tout cas là-dessus, avec pas mal d'écoute et d'explications. Et ensuite, bien sûr, il y a une rubrique qui ça va s'appeler À vous de jouer, où là, on va créer, les élèves vont pouvoir enregistrer leur propre journal et le monter eux-mêmes. Donc, on a une partie enregistrement où on voit la jauge d'un micro par rapport à la puissance d'enregistrement, en gros. On va pouvoir couper, découper le son, rajouter du silence à certains endroits, etc. Ensuite, on va avoir une vraie table de montage derrière, on va pouvoir mettre du jingle, vraiment découper, etc. Et permettre de partager. Il y en a qui tapent sur son clavier, je sais pas qui c'est.
Et pardon, c'est
Hein.
moi, je suis désolé, mes excuses, c'est mon micro qui prend trop,
Ah
j'arrête.
putain, ouais. Donc voilà, vraiment très intéressant en tout cas cette appli. C'est vraiment, elle fait tout en un. Donc on a la partie compréhension d'un journal et la partie où on va créer complètement le journal. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Souvent, quand on veut faire des web radios dans certains établissements, je trouve qu'il faut des fois du matériel assez compliqué. Là, avec très peu de choses, ça marche bien. En tout cas, je la conseille cette appli. Donc de France Info qui s'appelle Atelier France Info Junior.
Dommage que ce soit bizarre sur Android, mais sinon c'est appétissant.
Oui, je ne sais pas pourquoi, oui. Pourquoi il faut l'installer directement. On la trouve pas sur le Play Store. Voilà, étrange.
J'étais un peu coupé. Est-ce que tu peux juste me redire? Donc c'est destiné aux enfants, j'imagine, c'est ça, hein?
C'est éducation, tout à fait. Hein. C'est un outil
D'accord.
pédagogique, hein. Tout à
Donc
fait.
ça veut dire que ça va être téléchargé sur les téléphones des parents plutôt. C'est de
Non,
quel
je
âge
pense.
en fait?
Ah, ça peut être tout âge, hein, franchement, hein, puisqu'on est là. C'est l'éducation aux médias, franchement, moi en primaire je le verrais bien, je le verrais bien aussi bien au collège aussi,
Ouais.
et tout l'aspect montage est assez puissant,
D'accord. Bon,
hein.
super intéressant. Super
Ouais. Non,
intéressant.
non. Donc voilà, non, ça marche que sur tablette, hein. Tu m'as dit téléphone, ça ne marche pas sur téléphone, hein. C'est bien noté.
Uniquement sur les tablettes. Bon.
Ouais, ce qui me paraît normal sur la partie montage.
Oui, c'est un peu plus compliqué sur les téléphones, effectivement. Très bien, merci. Eh bien, moi, je vais enchaîner en parlant de Quant. Alors, on a déjà parlé de Quant dans l'émission, hein. Vous connaissez tous ce moteur de recherche Cocorico, un peu quand même, hein, d'abord, parce que c'est quand même français,
Tout à
qui
fait.
se veut, enfin, pas qui se veut, mais qui est, entre guillemets, un peu l'opposé de Google quand on parle de recherche, puisque aucune donnée n'est partagée, n'est conservée, et puis il y a un peu de militantisme là-dedans. Donc, c'est vrai que depuis quelque temps, on le voit souvent installé par défaut dans les établissements scolaires à la place de Google. C'est
Oui.
souvent lui qu'on voit, notamment aussi avec DuckDuckGo, hein, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Et en fait, ce soir, je voulais parler de son édition Junior. Mais je ne sais pas si. Je vois dans mes notes que peut-être Jeff t'en avait déjà parlé. Je ne sais pas si on avait parlé de Quant Junior.
J'avais parlé de Quant en général, mais
Voilà.
Quant Junior a un peu évolué quand même, je trouve.
Voilà, en fait, Quant Junior a évolué et c'est bien pour ça que je voulais en parler un petit peu ce soir. Je le trouve vraiment, vraiment intéressant et en fait, ce que j'aime beaucoup dans Quant Junior, c'est au-delà de l'installer sur les ordinateurs des collèges, même si c'est bien, c'est en fait d'en parler aux élèves et d'en parler aux parents et de travailler un peu avec eux là-dessus parce qu'on a souvent de plus en plus en fait des parents qui viennent nous voir. Alors je ne sais pas si c'est qu'ils savent que j'ai une casquette, on va dire, un peu plus digitale, numérique dans l'établissement, mais qui me posent pas mal de questions quant à la sécurité et qui se posent pas mal de questions par rapport à ça. Et je suis assez souvent en train de leur parler de Quant Junior pour ces raisons-là, parce que je le trouve d'abord très bien fait, comme Quant, en fait, le propose dans sa recherche. Mais en plus, ils proposent des outils d'organisation, d'information, de sauvegarde avec un système qu'ils ont appelé les carnets. Alors, les carnets, en fait, c'est assez. Comme son nom l'indique, hein, c'est très facile, hein. Ça permet aux enfants de collecter dans un espèce de dossier virtuel des images, des textes, des liens qu'ils peuvent ranger dans leur carnet. Et l'intérêt, en fait, c'est bien sûr que ces carnets peuvent être partagés. Et quand on travaille en classe, et notamment comme moi qui travaille beaucoup en langue vivante sur la recherche internet, à partir de la recherche internet, de faire des recherches. Je leur mets pas mal de missions, en fait, comme celle-ci, où ils doivent trouver des documents et les ranger dans, un peu dans leur portfolio numérique. Parce que souvent, on se pose la question de ces données, où est-ce qu'on les rassemble, ces liens, toutes ces images, tout ça. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une bonne, c'est une très, très bonne alternative. Pas une alternative, en fait, c'est un bon outil parce que moi, j'avais jamais vraiment trouvé de moyen comme ça, si ce n'est de faire des copier-coller d'images, de liens, tout ça comme ça sur des documents Word, OpenOffice. Enfin, voilà, c'était pas exceptionnel. Donc, les carnets, c'est pas mal. Alors, comme d'habitude, dans ces outils, ça va demander quand même au professeur de créer la classe et ensuite d'envoyer par un système de code une sorte d'abonnement aux élèves pour éviter de créer des adresses email. Il y a des systèmes aussi pour les élèves carrément de créer un compte Junior, mais ça, voilà, ça fonctionne pas mal. Je trouve que c'est vraiment une super alternative. Moi, je le fais installer aussi dans les écoles primaires. Je propose aux collègues des écoles primaires de l'installer. C'est vraiment pas mal et c'est sympa comme tout. Voilà. Enfin, ceux qui connaissent Quant vont pas être au niveau des résultats de recherche. Ça fonctionne un petit peu de la même manière. Quoi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur Quant ce soir.
Est-ce que tu l'as beaucoup utilisé, Guillaume?
Pas beaucoup, puisque si j'en parle ce soir, c'est que je commence à l'utiliser avec les élèves. Je l'ai beaucoup utilisé, j'utilise Quant normal, puisque je l'ai installé dans mes établissements. Mais Quant Junior, non, je ne l'avais jamais utilisé jusque-là. Je l'ai utilisé, en fait, en toute honnêteté, deux fois depuis. Et ça fonctionne pas mal. Alors moi, je l'ai utilisé avec des élèves quand même un peu plus grands, hein, des fins de collège. Et ils apprécient. Mais en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est le côté pouvoir classer quand tu travailles sur de la recherche Internet. Moi, j'essaie vraiment je veux plus leur donner les sites, en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui confondent les recherches Internet avec la recherche sur un site Internet. Vous voyez, qui disent, tu te rends sur ce site et tu vas trouver l'information. Pour moi, ça, c'est pas de la recherche Internet. Pour moi, ça, c'est une chasse au trésor. C'est, je te donne directement le lien et ou même de la compréhension écrite, en fait. Hein. Puisque finalement, on n'a qu'à lire et trouver l'info. Ce qui est très intéressant par ailleurs, mais qui n'est pas le même exercice. Quand là, je leur demande vraiment de travailler en recherche Internet, l'idée, c'est à partir des outils qui existent aujourd'hui, hein, ça fait partie aussi, c'est ça aussi l'EMC de toute façon, en éducation aux médias médias et l'information, leur donner des techniques justement sur comment utiliser des moteurs de recherche, trier ses sources, regarder ce qu'il y a dans les pages, etc. etc. Et toutes ces infos collectées, ben, il faut qu'ils puissent les mettre quelque part, et je trouve que ce système de carnet est plutôt pas mal fait du tout. Voilà.
En fait, je reprécise ma question. C'était pour savoir quel visuel ça donnait à la fin, tous ces sites que l'on peut mettre de côté.
Les carnets, là ?
Ouais, les carnets.
D'accord. Et ben, en fait, ces carnets, c'est tout à fait. Moi, ça me fait penser un petit peu à. Alors, vous pouvez aller voir, en fait. Le mieux, c'est peut-être de vous dire. Enfin, vous irez voir ceux qui s'intéressent. Vous allez sur Quant Junior et en haut à droite, vous avez un petit onglet carnet. Ça vous donne une belle image de ce à quoi ça peut ressembler. C'est des sortes de carrés, en fait, hein, dans lesquels... Ça me fait penser un peu à Pearl Trees, pour ceux qui ont déjà utilisé ça.
Ouais, un petit peu, ouais.
Dans lesquels, bah, voilà, vous cliquez dessus et ça va ouvrir tous les liens que vous avez pu stocker en vous donnant des statistiques sur ces lectures, en donnant... Voilà. Bon, l'intérêt, c'est de stocker de l'image, de l'image, du son, de la vidéo, enfin des liens, quoi. Et c'est très facilement partageable. Donc, c'est même l'occasion, c'est pour réaliser des tâches, hein, sur la recherche, c'est plutôt pas mal foutu. Voilà. Et puis, comme d'habitude, Quant, ça ne laisse aucune trace. Google n'enregistre rien, bien évidemment. C'est super safe pour les élèves. Hein. Ils ne risquent pas de tomber sur quoi que ce soit de gênant à travers ce site internet, ce moteur de recherche. Voilà, Quant et sa version junior, Quant Junior.
Oui, les carnets n'existent que sur le junior, a priori.
Ouais, les carnets, c'est uniquement pour uniquement pour junior.
C'est bizarre, non, parce qu'en fait, moi, ça me fait penser aussi à Pocket, si tu veux.
Ouais, c'est un peu cet esprit-là. Ouais.
Même à la rigueur, si tu pousses légèrement à OneNote, parce que c'est l'idée de pouvoir mettre de côté ce que tu trouves sur la toile. C'est dommage qu'il n'ait pas étendu.
En fait, Pocket, c'est rigolo parce que je voulais en parler un peu après quand je vais parler de ma liseuse en fin d'émission. Mais pour moi, c'est pas tout à fait pareil, en fait, parce que
les articles,
ouais, c'est vraiment de la lecture, en fait. Pocket, c'est
pas
vraiment
fou.
Il indexe pas aussi bien les vidéos, enfin la présentation, tout ça. Donc bon, et puis. Moi, je ne sais pas si c'est plus simple que Pocket. Pocket, il faut quand même installer l'addon dans les navigateurs, quoi. Là, vous créez un compte, le gamin le retrouve sur n'importe quel navigateur. Voilà.
Oui, parce
Non, mais c'est en termes d'utilisation dans notre cher milieu pédagogique, c'est sûr que là, il gagne largement, c'est pas, il n'y a pas de problème.
que là, l'enseignant crée un compte, a priori avec l'adresse académique, hein, j'ai vu. Et tu crées une classe derrière, c'est ça?
Oui, c'est comme tous ces systèmes de, bah, tu sais, qu'on utilise et dont on parle tout le temps, à savoir, comme on ne va pas demander aux élèves d'avoir une
D'accord,
adresse
j'entends.
email et d'utiliser quoi que ce soit, c'est le prof qui crée l'adresse email et qui va, avec un système de code,
D'accord, génial.
permettre aux élèves d'utiliser en fait à distance le compte du prof pour pouvoir créer autant de
Oui,
carnets qu'ils le
ok.
souhaitent.
Non,
Voilà.
non, en tout cas, ça va dans le bon sens, je trouve, Corentin, de plus en plus simple.
Oui, et puis je suis pas spécialement, comment dire, cocorico, enfin voilà, pas plus, pas moins, je veux dire, mais je trouve que c'est bien finalement, puisque ce matin j'entendais encore une émission sur Inter qui parlait justement de la bataille, vous avez peut-être entendu, entre Huawei et les
Ouais.
États-Unis, et le fait que
Oui.
finalement aujourd'hui tout était géré soit d'un côté de, voilà, soit par les Américains, soit par les Chinois, et que la vieille Europe, ben, c'était un peu le moment aussi de se réveiller parce qu'elle avait aussi des talents et plein de choses à proposer, et ça on le sait bien. Et je trouve que Quant en est la preuve, et c'est chouette, quoi. Voilà.
Tout à fait.
Voilà.
Merci bien en tout cas.
Allez, on avance.
On avance et c'est à moi. Bah, tout à l'heure, je vous ai dit qu'Hachpéréville était mort, donc forcément, je vais vous proposer autre chose. Enfin, je vais vous proposer. Je vais vous faire la lecture d'un article de quelqu'un qu'on connaît un petit peu, c'est Tisman. Quand bah, il a fait un tweet récemment en disant qu'il allait nous proposer une solution alternative à Hachpéréville qu'il avait en stock. Alors, il parle de Omentati. Pas comment on prononce exactement. Je vais prendre tendance à mettre un augment, mais non, c'est Omentati. Pour ceux qui sont habitués à Hachpéréville, autant dire que bah, c'est le même fonctionnement. Une image qui marque, une image déclencheur, ensuite une surcouche à mettre avec sur cette surcouche, vous pouvez comme élément mettre alors image vidéo, texte, objet 3D ou lien. Voilà, plusieurs éléments possibles à la fois. Ça se fait dans une espèce de studio qu'on va installer sur le PC. Auparavant, il faudra bien sûr se créer un compte, mais bon, ça, c'est l'habitude. L'avantage, c'est que une fois qu'il l'a chargé sur la machine, il n'y a plus besoin d'être connecté à Internet pour le recharger, apparemment. Bon, pourquoi pas. Bon, il le dit lui-même, c'est pas très séduisant comme logiciel. Leur studio, ils appellent Omentati Creator, c'est pas séduisant. Alors moi, je m'en fichais un petit peu. Et puis, il a précisé quand même qu'on pouvait faire 10 projets gratuitement. 10.
D'accord.
Donc, ça reste quand même une solution limitée. Alors après, je préfère une solution qui est limitée dès le départ et qui s'y tient à une solution qui vous dit venez chez moi, faites tout ce que vous voulez et dans un an, on ferme les portes.
Mais ça apporte quoi par rapport? Parce que moi, depuis que HP Rival est un petit peu passé payant, je parle que de Mirage Make. Ça apporte quoi de plus? Ou
Ben,
de moins
Mirage
de
Make,
Mirage Make?
alors. Je vais te donner un exemple. Moi, sur la carte des gamins, j'ai fait
Ouais, t'as
une
pas
image pour,
le. Ouais.
voilà, une image déclencheur, etc. Donc cette image, je peux la reprendre je sais pas comment il s'appelle, studio machin là,
Ouais, peu importe. Ouais.
ex-Orasma Studio, pour ben, rajouter au cas où un lien, rajouter une image en plus, un service en plus qui m'intéresse pour les gamins. Donc ça, je peux le faire. Mirage Make, le déclencheur ressemble forcément à un QR code
QR
de
code,
base.
oui, c'est vrai. Elle est là la différence.
Donc, et ça, tu ne peux pas le modifier. C'est-à-dire que
Ouais.
demain, je mettrai ça au dos de la carte. Il faut que je prévoie pour toute la durée d'utilisation ce que je veux que ça fasse absolument.
J'ai compris.
Donc,
Elle est là la
voilà.
différence. Ouais, c'est
C'est
sur
pour
le
ça que j'ai
déclencheur.
pas. Sinon, Mirage Make, moi j'adore, mais là-dessus, sur cette utilisation-là, ce n'était pas possible.
Ok, très bien.
Voilà.
Ça manque de liens ce soir. On sent qu'on est froid, c'est l'hiver, c'est la fin du mois
Non, mais
bientôt.
j'ai un décalage tout le long en moi, donc
Ouais, t'es pas
donc
bien, Jeff, ce soir. On te sent pas bien. Qu'est-ce qui se
non,
passe?
non,
Qu'est-ce qui se
c'est
passe?
la connexion, hein, qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Hein.
Ouais, ça va, bien
Allez,
sûr.
Truc et astuce, allez, je me lance. Truc et astuce. Truc et astuce, c'est un tout petit truc, un petit tweet que j'ai trouvé. Alors, je vais parler premier degré. Hein, c'est pas mon rayon normalement, hein, Seb.
Oh ben, j'ai vu en plus de qui tu vas parler et ça me permet de faire un petit lien vers.
Attends.
Nipédu.
Ouais, tout à fait, c'est vrai. Donc, c'est un petit tweet de Charivari, qui est prof des écoles en tout cas, et c'est vrai qu'elle a été reçue sur le dernier épisode de Nipédu. Allez l'écouter, en tout cas, fort intéressant. J'ai bien aimé son petit tweet, c'est tout simple, hein. Elle a dit que pour faire, elle a travaillé sur l'importance du lavage des mains par rapport à la transmission des virus. Et elle a fait une petite expérience avec ses élèves je crois, de CE2, où elle a mis quelques paillettes dans la main de la moitié de ses CE2. Et après une demi-journée, tous les élèves, en tout cas, étincelaient de la tête aux pieds. C'était pour se rendre compte, en tout cas, cette transmission de virus. J'ai trouvé ça assez rigolo. J'ai mis le lien en tout cas de ce tweet et vous irez lire aussi les commentaires de ce tweet. C'est assez marrant puisque chacun donne un petit peu d'autres idées aussi dessus. Donc voilà, j'ai trouvé en tout cas la petite astuce assez rigolote. Voilà.
C'est l'astuce de saison en plus, hein, c'est bien.
C'est ça, tout à fait. Voilà.
J'aimerais pas être la femme de ménage qui a dû se ramasser derrière toutes les paillettes. Truc à la con, quoi. Des fois, ils ont de ces idées, des fois, quand même, des gens. Enfin, d'accord. Regardez les enfants, on va se mettre des paillettes dans la main et puis on va vous montrer comment les virus ils se propagent. Et puis derrière, ça sera la femme de ménage qui va se taper tout le boulot. Ouais, merci la maîtresse.
Non, mais de toute manière, une fois que
tu as faut
utilisé
laver les
des
mains.
paillettes, il y en a pour 6 mois. C'est
obligatoire.
C'est
Ouais,
sûr.
comme les confettis au carnaval, tu sais. Ouais, on va se
Ouais,
jeter un
enfin,
truc dessus,
au
ça va être super.
carnaval ou au jour de l'an, voilà.
Ou au jour de l'an. Bonne année. Bon.
C'est ça. J'en aspire encore cette année. Allez, innovation,
Allez.
expérimentation, Guillaume, c'est à toi.
À mon tour, à mon tour, à mon tour, à mon tour. Voilà. Alors, en fait, c'est quelque chose qui va pour le coup plus parler aux profs de langue, peut-être même aux profs de langue première comme le français, pas forcément de langue seconde, mais en tout cas peut-être plus de langue seconde. Voilà, vous n'êtes pas censé savoir que nous luttons tous, profs de langue, contre Google Traduction, en fait, depuis que Google Traduction existe, et finalement encore plus, puisque Google Traduction s'améliore de jour en jour. Et l'autre jour, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple, c'est que les élèves, on a eu un vrai débat sur, mais monsieur, pourquoi finalement on fait pas que de la traduction quand on travaille et qu'on a besoin de comprendre un texte? Pourquoi, voilà, parce que nous, on est vachement sur les stratégies de compréhension d'une langue. Enfin, voilà. Et il y a un moment, des fois, on a juste envie de leur dire, bah ouais, en fait, vous avez raison, puisque 99,99% de la population dans une situation hors scolaire, quand ils ont besoin de comprendre quelque chose, maintenant, pour la plupart des besoins, ils vont dans Google Traduction et finalement, pour comprendre, ça leur suffit largement, parce qu'on ne leur demande pas de faire une traduction littéraire. Donc, vous voyez un peu le débat qui se pose, c'est que finalement, nous, on est là à essayer de leur donner des trucs et astuces pour se débrouiller avec une langue, pour travailler la compréhension écrite notamment, ou la production écrite sans utiliser d'outils externes. Et à côté de ça, tout le monde le fait, et à la maison, ils le font aussi. Voilà. Donc, mon idée, c'était plutôt en fait de travailler avec l'outil, il est là, il existe, donc que ce soit des tablettes ou des téléphones dans le cadre de travail en BYOD, en Bring Your Device, et plutôt de leur montrer en fait que des fois, ils déconnent quand même, c'est-à-dire, ok, tu veux le faire, ben fais-le. Fais-le, vas-y, regarde ce que ça donne, mais aussi que des fois ça marche en fait. Donc c'est plutôt l'effet inverse en fait, c'est de dire on va le faire et puis on va par contre être capable derrière de regarder si c'est complètement faux, si ça déconne complètement ou s'il y a un intérêt à utiliser ça. Et puis aussi à côté de ça, bien évidemment, utiliser les dictionnaires de contexte en fait, hein, comme Reverso Context, comme Lingui qui eux ont pas la même logique, ils font pas de la traduction, on tape une occurrence et ils vont aller chercher dans les bases de données d'Internet en fait des occurrences qui proposent la même chose. Donc là, on est beaucoup plus sur le contexte et pas du tout sur la traduction simultanée. Et ce qui est intéressant en fait avec Google Trad et dans les nouvelles versions, c'est que vous pouvez maintenant aussi suggérer à Google des améliorations. C'est-à-dire que finalement, quand on est avec les élèves et qu'on travaille sur Google Trad et qu'on s'aperçoit parce que moi, à un moment, c'était ça. Je me dis, mais vas-y, fais-le, et tu vas voir que ça déconne. Et ben, En fait, quand ça convient pas à la traduction, on peut donner une version à Google qui est censée être meilleure, qui fait que Google s'améliore quelque part. Et ce qui était intéressant, en fait, c'était plutôt cette réflexion à avoir avec les élèves par rapport à l'utilisation de l'outil, parce que bon, voilà, il est là, hein. Enfin, je sais pas vous qui n'êtes pas prof de langue, mais quand vous voyagez un peu à l'étranger, vous avez besoin d'un mot, vous avez besoin de quelque chose, vous allez chercher sur ces outils-là. Vous n'êtes pas en train de vous dire, oh là là, je vais me rappeler de ce qu'a dit mon prof en quatrième et que. Non, donc autant travailler avec l'outil et essayer de voir comment on peut quand même en faire quelque chose. Voilà un petit peu ce que j'essaye de faire.
Ode au pragmatisme.
Ouais, on va dire ça.
Et tu participes à l'amélioration de Google Traduction, en plus, c'est bien.
Ouais, c'est un peu ça qui m'emmerde aussi quelque part.
C'est
pour ça que j'aimerais bien avoir quelque chose de différent éventuellement.
Il
Mais
n'existe
bon.
pas un truc comme ça open source, justement, tu vois, un peu à la OpenStreetMap, tu sais, où on peut participer, etc. Voilà, ça serait super, ça, au point de vue
Ben, en fait,
pédagogiquement, quoi.
mais ouais, complètement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de dédiaboliser. Voilà, moi, j'en ai un peu marre aussi d'entendre mes collègues profs qui hurlent contre Google Trad, ce que je comprends tout à fait, en fait, hein, parce que ça va à l'encontre de ce qu'on essaye de faire. Et en même temps, de dire, ben, l'outil, il est là. On va peut-être arrêter de faire les autruches comme si. Voilà, je veux dire, tout le monde va faire ça, tout le monde va l'utiliser, que ce soit Google ou un autre. Donc, regardez, il est là, mais regardez, ça peut aussi dire n'importe quoi. Et dans ce cas-là, vous, humain, essayez de réfléchir à pourquoi ça dit n'importe quoi. Et je crois que ça apporte encore une autre réflexion sur la langue, en fait. Et ce qui n'empêche pas d'utiliser les vrais dictionnaires à côté, parce que moi, je reconnais que j'utilise plus de dictionnaires papier, parce que les dictionnaires contextuels et les dictionnaires unilingues qui donnent des définitions beaucoup plus que dans un dictionnaire papier, c'est aussi formidable. Donc, il faut absolument donner tous ces outils aux élèves et leur montrer comment on peut s'en servir. Voilà.
Très bien, très bien, très bien. Allez, j'enchaîne.
J'enchaîne.
Vas-y.
Alors, je vais parler de la Chine, moi, on en a parlé tout à l'heure. Je suis tombé sur un article assez, enfin, je pense, le titre me disait pas trop pour l'instant. Hein, c'était les principales tâches du chef d'établissement à Pékin. Ça me faisait pas trop rêver au début le titre, mais puis j'aime bien aller voir un petit peu. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal à aller voir ce qui se fait ailleurs. J'aime bien lire pas mal d'articles là-dessus, piquer des idées dans différents pays. Et la Chine, c'est pas vraiment un pays qui, au point de vue pédagogie, m'attirait beaucoup. Mais bon, là, on parle du rôle du chef d'établissement à Pékin. Donc, c'est un article qui vient du site qui s'appelle innoedulab.com. Vous irez voir ce site, hein, c'est différents, en tout cas, chercheurs en pédagogie et innovation qui sont derrière ce site. Mais ils ont juste fait en tout cas le lien d'un extrait en tout cas de. Alors tu vas m'excuser encore pour mon anglais, mais Portrait of Chinese Schools de Singapour, en tout cas cet article. Qu'est-ce qu'il nous dit cet article? Donc en fait, on dit le chef d'établissement a 8 tâches bien prédéfinies en tout cas en Chine. Le premier, ben, c'est le même qu'on va retrouver en Europe et en France. C'est le développement et la planification scolaire, ils appellent ça, hein. C'est vraiment leur grande préoccupation, hein, c'est planifier l'année scolaire et participer au développement, l'élaboration de stratégies pour résoudre des problèmes existants, bien comprendre l'équipe pédagogique, le besoin des parents, les problèmes de développement des élèves. Ça, rien de nouveau à l'horizon, c'est quelque chose qu'on fait en tout cas, que le chef d'établissement, c'est bien sur leur mission, je pense, numéro 1. Ce qui est étonnant, c'est le 2. C'est l'élaboration des contenus scolaires. Ça, c'est assez dérangeant, en tout cas, pour nous Français. Les contenus scolaires, en fait, en Chine, je ne savais pas, sont conçus au niveau national, local, et aussi l'établissement. L'établissement va pouvoir aussi travailler sur le contenu scolaire. Ils disent que ça va devoir, en tout cas, de comparer les établissements entre eux. Voilà, par exemple. C'est pour ça que les chefs d'établissement sont priés, en tout cas, d'explorer, ils disent, les possibilités de développement des programmes scolaires. Donc ça, c'est assez déroutant, en tout cas, cette partie 2. Leur troisième mission, c'est diriger l'enseignement en classe. Les directeurs, eux, ils doivent visiter régulièrement les classes pour identifier, résoudre les problèmes et faciliter, en tout cas, la communication entre les enseignants et les élèves. Donc, ils disent ils doivent en tout cas par semestre aller voir 40 leçons en classe. Donc rentrer dans les salles de classe. Ils ont plusieurs possibilités en observation, hein, et en tout cas, ils ont une journée, ils appellent ça les portes ouvertes, où toutes les classes sont ouvertes, n'importe qui peut aller voir en tout cas la classe du voisin, ce qui s'y passe, etc. Il y a aussi un regroupement de chefs d'établissement qui va se balader aussi dans certaines classes. Et voilà, c'est des choses qui se font en tout cas dans leur mission. Ensuite, ils ont une mission qui s'appelle gestion des routines quotidiennes. C'est peut-être plus des choses qui nous parlent un peu plus, hein. Tout ce qui est la problématique des réunions avec les autorités locales, les réunions pédagogiques avec l'établissement, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît un peu plus. En 5, c'est gestion des relations publiques. Ils sont étroitement liés aux parents, aux communautés, l'établissement partenaire et aux autorités supérieures. Donc ça aussi, hein, c'est quelque chose qu'on connaît un peu plus, en tout cas la gestion comme ça. La partie communication, ils insistent beaucoup sur la partie communication avec les enseignants et les élèves. Hein. Ils différencient beaucoup. On n'est pas en usine, hein, on connaît les usines un petit peu chinoises, on n'est pas en usine, on est sur de l'humain. Donc là, il y a une communication énorme entre en tout cas tous les différents canaux de communication. Ils déjeunent de temps en temps, ils doivent aller manger avec les enfants de temps en temps. Donc ils reparlent de l'observation des classes, ils ont l'organisation, ils organisent des cérémonies de thé comme ça, où ils vont pouvoir discuter avec les élèves, la mise en place d'ateliers. Donc beaucoup de choses comme ça. Et en 7, ils ont planification du travail et synthèse des tâches. Donc, les chefs d'établissement sont conscients de l'importance de la planification et de la synthèse des tâches. Ils le font généralement chaque jour, chaque semaine, mois, semestre, année. Ça aussi, c'est un peu moins étonnant. La 8 est un peu plus étonnante, c'est la lecture et réflexion. Ils doivent sans arrêt s'améliorer, en tout cas, au développement professionnel continu. Donc, ils doivent sans arrêt lire, assister à des réunions de chefs d'établissement, à des réunions pédagogiques pour faire le tri dans des nouvelles pédagogies, etc. Et ensuite, alors pas le montrer, mais proposer ça en tout cas aux enseignants de leur établissement. Voilà, moi je suis assez preneur en tout cas des choses un petit peu nouvelles. Il y a des choses très étonnantes, il y a des choses pour nous Français qui nous dérangent, hein, je pense le point 2 surtout, hein, sur le contenu scolaire. On se demande comment il peut avoir un point de vue sur le contenu scolaire avec le nombre de disciplines qui existent, par exemple. Moi ça me rend assez surprenant. Et par contre la formation, je trouve ça assez étonnant et assez plutôt dans le bon sens, en tout cas, c'est de toujours se remettre en question, d'aller chercher de nouvelles pédagogies, de proposer des choses. Je sais pas, vous, en tout cas, comment vous percevez le métier de chef d'établissement dans nos contrées, mais c'est quelque chose que moi je ne vois pas, ça, en tout cas.
Ouais, c'est très particulier tout ça quand même.
Ouais.
Je ne sais pas comment ils maintiennent leur cahier des charges
C'est à Singapour, tu disais, je suis désolé, j'ai eu un moment d'absence.
Pékin, Pékin, Pékin.
Pékin, ok. Mais ce ne sont
Pékin.
pas des établissements AEFE, ce sont des établissements
Chinois.
chinois.
Ouais,
Pardon,
oui. Là,
d'accord.
on n'est plus du tout sur un lycée français.
Tu sais, pour connaître le système anglo-saxon plus que les autres, je veux dire, c'est un peu ce qui se passe déjà en Angleterre. Aujourd'hui même, voilà, hein, avec ce qu'on appelle des headmasters qui répondent d'ailleurs à des directives, des sortes de conseils d'administration organisés par des membres de l'école, mais aussi des parents, un peu nos conseils d'administration à nous, mais avec beaucoup plus de pouvoir, et qui ont aussi un regard sur le contenu d'enseignement. Et moi, je suis un peu comme toi, au début, en me disant, mais enfin, comment on peut avoir un regard sans être spécialiste des matières? Et pourtant, si, alors c'est un regard beaucoup plus global. Alors, je ne dis pas qu'il est bon, hein, qu'il est forcément pertinent, mais un regard quand même assez général sur les méthodes, comme tu dis, les modalités d'enseignement, mais quand même les contenus. Alors, moi, j'ai toujours du mal, hein, je reconnais, notamment sur les sciences, quand on en vient aux sciences, quoi. Enfin, moi, demain, je suis à cette position-là, je serais bien mal l'outil de dire ce qu'il faut enseigner en physique ou en bio ou même en techno, bien évidemment. Donc, je sais pas, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de poser beaucoup plus de problèmes que ça dans le reste du monde, en fait. J'ai plutôt l'impression que c'est nous qui sommes
Oui, bien sûr.
plutôt comme ça, quoi.
Non, mais moi, y a un point que je trouve, voilà, sur ce qu'ils appellent les portes ouvertes, c'est-à-dire que le chef d'établissement va visiter en classe, il fait des principes donc justement où les classes sont ouvertes, etc. Moi, je trouve que, voilà, moi, c'est mon sentiment, en tout cas, je trouve que les classes sont trop fermées, moi, je trouve, pour l'instant. Moi, je trouve dans nos collèges et lycées.
Ah oui, mais qu'est-ce que tu entendrais par plus d'ouverture, tu veux dire, par...
Ben justement, moi j'adorerais une journée comme ça où on ouvre toutes les classes, où on va voir le collègue d'en face comment il enseigne, voilà, tu vois, piquer des idées à droite à gauche, j'adorerais un truc comme ça, tu vois. J'ai jamais
Oui,
pu
mais je
faire
crois que
ça.
tu sais comme moi, Jeff, que c'est pas une question de volonté des enseignants. Je pense que demain, tu dis à n'importe quel enseignant de le faire, il le fera avec plaisir, si il a les moyens de temps de le faire. Peut-être pas, je te vois faire la moue, mais... Oui, t'as raison, tout le monde voudra pas le faire. En tout cas, je pense que c'est plutôt les gens seront OK pour aller voir le collègue, mais c'est le collègue en question qui sera peut-être moins OK pour ouvrir sa classe en fait. C'est que je crois qu'on a tous envie d'aller voir les autres, mais on n'a pas forcément envie qu'on vienne nous voir. Tu vois ce que je veux dire? Mais enfin,
Ouais, je sais
moi non
pas.
personnellement, puisque
Ben
pour
ouais,
moi le...
moi j'aimerais un regard extérieur est toujours très
Mais
très
oui, mais parce
enrichissant,
que
quoi. Voilà.
Aujourd'hui, on fait ce qu'on fait en tant que formateur parce que justement, on a aussi dans ce truc-là, moi j'ai la chance d'avoir toutes les semaines des gens dans ma classe, soit des stagiaires, soit des voilà qui viennent voir comment on travaille un peu différemment, tout ça, c'est chouette. Donc j'ai l'habitude maintenant, mais il y a plein de collègues qui sont tétanisés à l'idée de qu'au justement on leur dise, je sais pas quoi d'ailleurs en fait, mais
Bah oui.
c'est oui, mais voilà, c'est ça, mais qui sont quand même tétanisés. Donc voilà, et en plus de ça, il faudrait que le temps pour que les collègues puissent le faire. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le constat. C'est sûr, je pense qu'on gagnerait tous à s'observer quoi qu'il arrive.
Bien sûr. Voilà, je trouvais en tout cas cet article assez intéressant, donc je vous mettrai les notes dans les notes de l'émission,
Très
cet
bien,
article.
merci beaucoup.
On
Allez, ben
enchaîne?
on enchaîne avec
Oui.
ce qu'on fait.
En ce moment.
Vous voulez que j'enchaîne aussi?
Allez, vas-y.
Écoute,
Allez.
tu peux, on fera une petite
Allez,
demi-heure.
j'ai reçu ma petite carte de programmation micro:bit que Seb nous avait parlé, qu'on avait pas mal rebondi dessus. Alors, je l'ai acheté, donc ça vaut je sais plus, 20 euros, je crois, cette carte. Donc, c'est une carte, je rappelle, qui a été vraiment fait pour l'éducation, avec plein de capteurs à l'intérieur, etc. L'intérêt, ben, c'est qu'on peut le programmer avec un langage type bloc, type Scratch. Mais en fait, moi, je l'ai acheté parce que avec la nouvelle, je m'occupe de la formation de la nouvelle discipline de seconde, donc sciences numériques et technologies. Il y a une partie objet connecté et la micro:bit me semblait pas mal puisqu'on peut la programmer en Python. Donc, je me suis mis au Python, ça y est. Alors, ça va pas chercher bien loin non plus, hein, ce qu'on va faire en seconde, hein, ça reste des élèves de seconde, c'est pas un enseignement de spécialité, c'est un enseignement de culture numérique. Donc, on s'est mis dedans. Moi, le gros intérêt de la micro:bit, c'est que quand on programme à l'écran et qu'on veut lancer le programme sur la carte, c'est un clic, voilà, rien que pour ça, c'est vraiment bien. Encore cet après-midi, j'étais avec mon fils qui a 11 ans. Je lui ai expliqué 5-10 minutes le principe. Il avait pris en main le truc en 2 secondes. Il avait commencé à avoir plein d'idées. Il branchait tout et n'importe quoi dessus. Voilà, j'ai trouvé ça assez génial. Et là, même sur le Python. Alors bon, le langage Python, je suis pas un crack, donc j'ai un peu de mal sur la syntaxe. J'ai beaucoup d'erreurs de syntaxe, des points-virgules et des, tu sais, hein, voilà. Mais sinon, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Toutes les fonctions existent déjà dans Python, donc pour écrire quelque chose sur la carte, c'est assez simple. Donc là, je suis en train de créer une séquence. Alors pas moi tout seul, on est plusieurs. Une séquence entière, en tout cas de 4h30 pour ces futurs élèves de seconde, à l'utilisation de cette carte-là pour la seconde. Voilà.
Très bien.
Joli.
Joli,
Joli,
joli.
joli.
Merci beaucoup.
Seb?
Vas-y, Seb.
Ouais, moi je passe sur Book Creator. Book Creator, application et aussi solution sur ordi pour créer des livres numériques incluant bien sûr texte, images, mais aussi son et vidéo. Alors, Book Creator, je le fais utiliser. Moi, je l'utilise très peu. Je le fais utiliser par mes élèves pour qu'ils me réalisent un exposé. En fait, ça fait office de PowerPoint pour eux. Donc, je leur apprends à faire des présentations où ils ne me lisent pas ce qui est à l'écran, parce que ça, je le déteste. Donc, ils font leur présentation, ils font la recherche, bah, d'ailleurs sur Quant, Quant Junior, c'est bien pratique pour ça. Pour moi, c'est des petites recherches. Là, pour l'instant, ils ont fait des exposés sur un animal. C'est pas extraordinaire, mais ça leur permet de prendre la technique pour faire un exposé sans que ce soit une recopie du net. Donc, ils préparent leur exposé, ils le mettent, ils prennent des images, ils prennent des questions, ils mettent ça en forme, etc. Ils obtiennent donc un petit livre numérique. Voilà. Ensuite, ils passent ça sur le vidéoprojecteur et ils me font un exposé avec ça. J'en ai encore eu un aujourd'hui, hein, sur le tigre, pas mal. Donc, c'est eux qui font, hein, ils passent les pages, etc. Ils sont en totale autonomie jusque-là. Et ensuite, une fois qu'ils sont passés à l'oral, je leur demande de revenir là-dessus et de rajouter, parce qu'on peut le faire sur Book Creator, ce qu'ils ont dit, ils le rajoutent directement dans le livre et ils m'en exportent une vidéo à la fin. Voilà. La vidéo, ensuite, je la prends, je la mets en ligne sur un serveur académique et ils y ont accès avec un QR code. Et c'est QFD. C'est super pratique parce que dans un logiciel, vous pouvez faire donc deux produits entièrement différents et c'est que le c'est un petit truc. Hein. On peut faire des tas d'autres choses. Le seul souci que j'ai pour l'instant, c'est un petit décalage entre le son et l'image quand j'exporte une vidéo avec Book Creator. Donc, il va falloir que je revienne sur les vidéos à la main. Mais
en
sinon,
quel format
moi, pourquoi tu ne laisses, pas en e-book?
Alors, je ne laisse pas en e-book parce que bah, la vidéo, c'est pratique à lire sur le serveur académique. J'ai juste un QR code à mettre. Alors que le e-book, ils vont devoir le charger dans l'e-book de l'iPad. Ça perdait un peu de son intérêt, je trouve.
D'accord.
Puis j'aimais bien l'idée de, tu sais, tu fais une présentation et puis ensuite, ta présentation qui est ressemble beaucoup à un bouquin, ça devient une petite vidéo, donc je me dis ça peut être pas mal.
Okay.
Quel format tu m'as demandé? Je suis pas capable de. Je sais pas, c'est du MP4, je suis même pas sûr.
Toujours. Tu travailles toujours sur iPad, toi, hein, c'est ça?
Ouais.
Mmh. Ouais, parce que Book Creator, c'est problème sur Android, on peut pas l'utiliser.
Alors, tu peux. Alors, je sais plus, je suis plus très au fait de ça,
non,
mais il me semble que
c'est
tu peux
Chrome.
Passer par le en passant par le navigateur. Quoi.
Ça marche pas non plus.
Il faut... pas.
Non, ça marche sur PC, par Chrome, très bien, mais non, ça marche pas.
Non, ça marche pas quoi, tu dis là, pardon?
Sur Android, c'est impossible, mais non, Book Creator.
Eh ben, faut passer par Google, par le navigateur.
Bah, ça marche pas bien non plus, hein, j'ai remarqué.
Ah, je le fais tous les mercredis, là. C'est ce que j'allais dire ensuite, c'est pour ça que j'étais content que tu dis ça.
Donc, j'ai raconté une connerie, là.
Ouais, depuis, exactement, depuis, et pourtant, et même avec des Galaxy Tab 3, des trucs vieillots, là, moi, j'ai découvert ça pareil, parce que donc, je fais de l'anglais avec des primaires dans le cadre d'un parcours international, et on se sert énormément de Book Creator pour des tâches que tu viens de décrire. Alors, nous, on travaille beaucoup à partir d'albums en anglais, bien sûr, que les élèves doivent raconter à leur tour pour travailler sur tout un tas d'objectifs linguistiques intéressants et ça marche du feu de Dieu puisqu'il n'y a plus l'application maintenant Android, donc on lance le navigateur et ça marche très très bien, vraiment. Ça marche même mieux sur tablette, je trouve, que sur quasi sur l'ordinateur.
Ils ont un truc
le problème de l'ordinateur, c'est qu'il faut un micro intégré, quoi, ou alors un micro casque en fait. La tablette, c'est un standalone et c'est super, super
non, mais c'est toujours un outil puissant. Ouais. Et ils ont une partie BD là qu'ils ont créée, j'ai découvert, moi, je ne connaissais pas, qui est plutôt pas mal aussi.
Ouais, c'est un truc qui existe depuis un moment sur iPad, en fait.
Ah, je ne connaissais pas.
Hallucinant, c'est que moi, je l'utilise un peu à la One Again avec un seul compte prof que je branche sur toutes les tablettes. Et
ça marche, hein?
Et ben ça marche, ouais. Voilà. Dès qu'ils créent un nouveau livre, ils ont tous accès en même temps et avec le même compte et ça fonctionne très, très bien, quoi. Vraiment.
Non, c'est un outil puissant en tout cas.
Moi, je trouve que de ces derniers temps, c'est dans la production multimédia, c'est de ce que je trouve le plus efficace, même bien plus efficace qu'un Comphone, efficace que c'est vraiment super bien. Vraiment.
Et c'est surtout vraiment simple d'accès.
Tout à fait.
Il n'y a pas 50 boutons, il y a moi, mes explications, elles tiennent. Généralement, j'explique très peu de choses. Je leur dis, il y a le plus, il y a le i. Regarde, essayez, explorez. Généralement, c'est comment on fait pour supprimer. Bah, tu as le i. Cherche dans le i et tu vas le trouver. Ça va vite.
Ok.
Et puisqu'on est dans les corrections, je viens de vérifier, apparemment, si on se crée un compte Quant, on a accès au carnet. Donc,
même en adulte, format adulte.
Pas junior, tu veux dire ?
Voilà. Quant classique.
Ouais, d'accord. Ok.
Eh bien, je vais de ce pas manquer. Hein. Mais non, parce que
voilà, j'utilise... en direct, messieurs, dames. Oh là là.
J'utilisais beaucoup Paltrize, justement, d'en parler, moi. J'utilise toujours Paltrize pour mes liens. Mais c'est vrai que je passerais bien Quant, là. Si ça marche bien comme ça.
Très bien.
Allez, on va parler d'autre chose un peu, hein. Allez.
Ouais.
Allons-y.
J'enchaîne. Allez, je vais vous parler d'une série alors qui est pas toute récente. Hein. Voilà. Mais que j'ai découvert moi très récemment, qui s'appelle The IT Crowd, ce qui est une sitcom britannique de qui a été en tout cas diffusée de 2006 à 2013 sur Channel 4. Qui est sur Netflix, donc comme j'ai un abonnement de Netflix, ben je cherche, des fois je feuillette, je tombais là-dessus. Le pitch en gros, c'est comment ça s'appelle, responsable informatique dans une société, une grande société londonienne d'aérospatiale, et c'est dans, vraiment dans le monde geek. C'est une vraie sitcom, hein, vous avez les rires et tout, hein. J'ai essayé de faire écouter ça à mon fils, il m'a dit oh les rires c'est insupportable papa. Et comme un bonnet, c'est très très, enfin, c'est très très bête, hein, moi je trouve, hein, comme humour. Mais je rigole un peu comme un bonnet avec, donc. Et j'ai enchaîné les 5 saisons d'affilée. Et
quand même.
Et je trouve que ça s'améliore. Alors, c'est très court, hein, c'est 25 minutes hein, l'épisode. Hein.
J'aime bien, c'est très court, c'est 25 minutes.
Ouais. Et ça se bonifie parce que la première saison fait vraiment. On n'a pas d'argent, on fait pas grand chose, on sort pas trop du lieu de travail, et ça s'améliore de saison en saison. Et il y a eu une dernière qu'ils ont faite là, que en 2013, où il y a eu qu'un seul épisode de 50 minutes et qui finit là-dessus en tout cas. C'est vraiment plein de références geek, hein, aussi bien bande dessinée, cinéma, séries, un peu tout, beaucoup d'humour. Voilà, moi ça me fait rire, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être seul moi à rire à ce genre de bêtises, donc voilà. Mais en tout cas je vous le conseille.
Moi j'avais essayé, sincèrement, j'ai pas avec ce que tu as dit, peut-être que je m'y remettrai un peu parce que j'avais pas dépassé les premiers épisodes de la première saison.
Eh ben c'est les premiers épisodes qui sont un peu rudes au départ, tu dis t'as du mal à rentrer dans l'humour au début parce que c'est très premier degré, enfin l'humour des fois de temps oui. en temps. Hein. Et en fait, ça se bonifie, tu commences à t'attacher aux personnages, à ces deux personnages, là, Roy et Moss, et Jen, la nana. Et en fait, non, après j'accroche, et puis tu ris comme un bonnet, hein, avec ma tablette et mes écouteurs, et on m'entend rire. Et mon fils comprend pas, hein, mon fils de 15 ans, il comprend pas, hein, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que tu regardes?
C'est sûr.
Voilà, The IT Crowd.
Très bien.
Guillaume ?
Allez, à moi, bah, très rapidement, je n'avais encore jamais craqué à la liseuse, craqué pour une liseuse en tout cas. Voilà, donc j'ai, il y a peu de temps, passé le pas après, finalement, assez tardivement par rapport aux gens qui lisent beaucoup. Moi, je suis un lecteur, on va dire, moyen. Je lis. Il me semble plus que la moyenne quand j'entends parler de lecture autour de moi, mais pas autant que mes amis qui, par contre, eux, lisent énormément, vous voyez. Et quand même, voilà, j'avais envie un peu de me remettre dans la lecture. Et en fait, moi, je lis beaucoup en anglais, vous en doutez. Et un des aspects qui m'intéressait beaucoup dans la tablette, quand je commençais à lire sur la tablette, c'était la possibilité de cliquer sur un mot, et on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, avoir la définition unilingue du mot, parce que bah voilà, on a beau être prof d'anglais et parler anglais toute la journée, on ne connaît pas le dictionnaire, bien évidemment. Et il y a énormément de termes, surtout dans les lectures parfois inhabituelles, que ce soit sur des romans de science-fiction, au contraire historiques, voilà, pour se rafraîchir la mémoire. Et c'était une super opportunité. Mais le problème de la tablette, c'est cette lumière bleue quand même le soir dans le lit. Déjà, la tablette, je la trouve assez lourde. Et même si on baisse la luminosité, c'est quand même pas la même sensation. Et on m'a parlé de ça, de cette liseuse, et je suis allé les voir, et j'ai été absolument, absolument bluffé par le rendu de ce qu'ils appellent l'encre numérique, là, le e-ink.
Inc.
C'est quand même hallucinant. Hein. Je veux dire, on voit bien que c'est pas du papier, mais là, c'est quasi la rendu du papier. Et vraiment, j'ai pas hésité. Alors, voilà, il y a plusieurs liseuses. Vous savez certainement que les deux mastodontes sont bien évidents, le Kindle d'Amazon et la Kobo qui a un partenariat avec la Fnac. J'ai finalement craqué pour la deuxième, d'abord par militantisme, parce que j'essaie quand même de me repousser un peu plus d'Amazon de jour en jour. Aussi, j'étais à la Fnac et que j'avais des chèques cadeaux de Noël à la Fnac. Voilà.
Oui. Ouais, parce que Kobo n'est pas français, je te rassure, hein, d'ailleurs.
Complètement. Voilà. Mais c'est pas Amazon non plus. C'est quand même pas. Voilà. Mais... Dernière révélation d'Amazon m'ont un peu gonflé.
J'ai une Kobo aussi. Donc.
Voilà. Et en tout cas, en plus, j'ai pris ça parce que j'ai pris la plus grosse. Là, j'ai pris la H2O, je ne sais plus laquelle, celle du milieu. Elle est étanche, on peut lire dans son bain, dans la piscine. Voilà. En plus, elle lit beaucoup plus de formats que le Kindle. Alors après, les formats, ce n'est pas très, très grave parce qu'on les convertit en 4 secondes, comme n'importe quel autre fichier. Moi, j'avais beaucoup de PDF aussi et j'avais un peu peur. Effectivement, la lecture de PDF sur la liseuse, c'est pas top parce que c'est pas adapté. Même pour zoomer, il vaut mieux une tablette à la limite. Mais bon, il suffit de la convertir le PDF en e-pub et vous avez les mêmes possibilités que n'importe quel document que vous pouvez lire avec un e-pub, savoir choisir la taille de votre texte, etc., etc. Voilà. Donc, ça m'a permis de me replonger dans des lectures. Ce que j'ai relu 1984 de George Orwell, qui, ma foi, n'a jamais été aussi actuel à la relecture de cette œuvre. C'en est assez flippant. Et pour finir, je vous conseille, mais là c'est plus pour les profs d'anglais, un livre qui s'appelle Pies and Prejudice, qui est, comme son nom l'indique, le type parodié du roman de Jane Austen, Pride and Prejudice, et qui en fait est écrit par un mec qui s'appelle Stuart McConey, qui est un animateur de la BBC, en fait, BBC 4, qui est très très connu en Angleterre. Je dirais pas que c'est le Nagui local, mais en tout cas, voilà, un mec qui est à fond dans la musique, à fond dans cette culture un peu pop. Et il vient du Nord, en fait. C'est un peu un gars qui serait ch'ti chez nous, on va dire, voilà, mais qui vient du Nord de l'Angleterre et qui a écrit, en fait, ce roman qui est une sorte d'hommage à la culture du Nord de l'Angleterre, d'où les Pies. Et c'est à mourir de rire, quoi. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très drôle. Donc, il faut quand même déjà une certaine connaissance de l'Angleterre pour arriver à en comprendre toutes les subtilités. Mais je sais qu'il y a des profs d'anglais qui écoutent. Donc, n'hésitez pas à aller lire ce roman et qui est bien évidemment disponible sur toutes les plateformes d'achat de livres. Ah, et si, dernier truc que je voulais dire quand même par rapport à la liseuse, parce que j'y connaissais absolument rien, mais quand vous avez une carte de bibliothèque municipale, eh ben, vous pouvez emprunter des livres numériques à la bibliothèque municipale. Donc, ça marche avec Adobe, je ne sais plus quoi, là, un lecteur fait pour ça, c'est gavé DRM, vous avez un livre, vous le prenez 3 semaines, et au bout de 3 semaines, vous ne l'avez plus, comme si vous l'aviez rendu à la bibliothèque. Voilà.
Tout à fait.
Moi, le seul truc qui m'agace un peu avec les liseuses, c'est que j'ai mis un moment à comprendre qu'il fallait que j'aille prendre un logiciel qui n'a rien à voir avec la liseuse pour pouvoir l'utiliser tranquillement.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
C'est pour gérer ta collection de livres électroniques, il y a un logiciel tiers qui fait super bien le taf, mais dont je ne me rappelle plus le nom forcément, et qui va te permettre de mettre des livres que tu as déjà, des PDF, etc., sans aucun problème sur la liseuse.
D'accord. Alors moi, je t'avoue, pour l'instant, j'utilise comme une clé USB. Hein. Je le branche, le dossier monte, je déplace mes fichiers et puis terminé. Hein.
Mais je te retrouverai le nom parce qu'il est vraiment,
En tout cas, bon, ça fait un peu noobs comme ça et ça fait un peu le mec qui débarque. Ah bah, digon, tu t'y es mis, mais effectivement, je m'y suis mis peut-être plus tardivement. Mais qu'est-ce que c'est plus agréable que de lire sur la tablette, quoi. C'est le jour et la nuit.
Ah oui, ça c'est sûr. Là, il y a pas photo. Donc, en plein soleil.
Et en plein soleil, et le rétroéclairage de la nuit est vraiment adapté, c'est-à-dire qu'il fait pas, il bousille pas les yeux. Après, c'est quand même pas, d'un point de vue technique, on voit que c'est quand même pas aussi réactif qu'une tablette. Je veux dire, des fois, quand on passe des pages, y a quand même, c'est quand même pas le même techno derrière, quoi, on est d'accord. Oui, c'est pas le même usage, mais tu vois, il y a même un navigateur internet. Bon, bah finalement, on s'en sert pas trop parce qu'on voit que c'est pas.
Non, pour les articles, tu parlais de Pocket.
Ouais, pour les articles.
C'est intéressant, hein.
Ce qui est quand même super bien, c'est que voilà, vous rechargez la tablette. Moi, depuis que je l'ai, ça fait 3 semaines que je l'ai. Je lis comme un dingue. Je lis tous les jours au moins 1 heure. Je ne l'ai pas rechargé encore une seule fois. Et j'ai des amis qui l'utilisent énormément et qui me disent qu'ils la rechargent 4-5 fois dans l'année avec des mecs qui lisent quand même pas mal, quoi. Donc, ça me fait. C'est plutôt impressionnant. Voilà.
Ouais.
Très bien.
Et ben, moi, je
Allez,
vais
7.
terminer avec une chaîne YouTube, pour changer
Ah,
un petit
putain,
peu, qui s'appelle Primum non nocere, dont le titre est inspiré par une devise qu'apprennent les étudiants en médecine, qui signifie à peu près, en premier, ne pas nuire. Elle est animée par un médecin. Et c'est une chaîne qui va brasser des sujets qui peuvent intéresser plutôt le grand public. Il fait des points sur tout ce qui est vaccin. Il fait des points sur. Et forcément, quand on cherche les sujets, on les a plus en tête. Donc, je vais regarder ça rapidement. Ah, voilà. Allez. Pourquoi les oreilles se bougent en avion? Est-ce que le bisou qui
Ah.
guérit tout fonctionne vraiment? Après, il a des numéros un peu plus longs, ce qu'ils appellent pour aller plus loin, qui reprennent des numéros qu'il a faits, qu'elles se créent dans nos assiettes, douleurs antalgiques. Et je dois avouer que là, j'ai eu mon petit chouchou, je voulais en parler ce soir parce qu'il a fait un pour aller plus loin avec Staying Alive ou l'art du massage cardiaque du disco, qui, premièrement, je savais où il voulait en venir. Mais c'est une vidéo, je pense, qui mériterait d'être vue par énormément de monde, parce qu'elle est non seulement très bien faite, elle est bien faite, elle est bien rythmée, elle a ses côtés marrants, mais elle est surtout super pédagogique et elle est super importante, parce qu'en gros, il fait un point sur les premiers gestes de secours, les gestes de premier secours, sur des trucs que tout le monde devrait savoir, franchement, et c'est super bien fait. Sa chaîne est un concentré de trucs sur les questions qu'on a toujours voulu poser à son médecin, mais qu'on n'a jamais posées en
Allez,
définitive. Hein. Il y a un numéro spécial sur comment dirais-je, des hors normes sur le thème de la sexualité. Moi, je conseillerais que les ados le regardent, celui-là, parce qu'il est un peu gore, mais pas comme on pense. Vraiment, franchement, c'est des trucs exceptionnels qui n'arrivent qu'une fois tous les 1 million de cas, mais c'est bien, bien sympa. J'ai même appris des trucs. C'était très amusant. Après, il y a vraiment des tas de petites choses très sympas. C'est une chaîne à quoi? À bientôt 100 000 abonnés. Donc, ça commence à être une jolie chaîne YouTube. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est instructif et marrant. C'est tout ce que j'aime. Donc,
très
voilà.
bien. Il y a dans le chat, il y a Steph qui nous dit que est-ce que c'est le logiciel Calibre que tu parlais?
Oui, merci. Ah,
Voilà.
ceux qui connaissent Calibre, c'est une
Voilà.
petite perle pour moi.
Merci à Steph alors.
Voilà.
Eh ben très
Calibre,
bien,
d'accord, très bien.
on finit cette émission ouais, dans l'heure, c'est bien, 1 heure pile. Allez, comme d'habitude, je finis par tous les crédits. Vous pouvez nous retrouver pas sur tous les réseaux sociaux. Bien sûr, on est sur Facebook, on est sur Twitter, eTeachersFR. Vous, bien sûr, sur notre site, hein, vous pouvez aussi commenter sur notre site, hein, nous rebondir un petit peu sur les épisodes, hein, sur eTeachers.fr. Et vous nous trouvez sur toutes les applis de podcast, hein, sur tous les appareils. On est même maintenant sur Spotify, messieurs.
Oh
Bientôt
là
sur
là.
10, ouais, bientôt sur Deezer, mais c'est un peu plus compliqué a priori Deezer pour se faire accréditer Deezer. Voilà. Si vous voulez en tout cas vous nous soutenir aussi financièrement, on a toujours notre Tipeee qui est ouvert, tipeee.com/eTeachers. Et voilà, par exemple, pour m'acheter un micro. Et si on veut nous joindre plus personnellement, Seb, ton
Alors
comment on
sur
fait?
Twitter avec @stuteur, STUTEUR.
Guillaume, comment vous joindre, toi?
Willotich,
Ah.
WI2L underscore. Non, WI2LO underscore Teach, TEACH. Voilà.
Allez, moi c'est Jeff8342. On se retrouve normalement dans 15 jours, si je dis pas de bêtises. Et puis d'ici là, et bien passez de bonnes semaines.
Tout à fait.
Salut les gars.
Ciao,
À
ciao.
plus.
Salut.